France du 50 mètres brasse tout à l'heure en série de la quatrième étape de la Coupe du Monde de natation en petit bassin. Ça se passe à Stockholm. Il a nagé en 26 secondes et 64 centièmes.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion. Demain à 19h20. Jean-François Aquili.
Henri Guénot est notre invité ce mercredi. Le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy défendra le projet de grand emprunt qui fait débat. Henri Guénot sera également confronté à l'économiste Jacques Marseille sur le thème « La France est-elle en faillite ?». Rendez-vous avec Henri Guénot dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, demain à 19h20. France Inter.
La différence.
Il est 15h04, c'est l'heure de retrouver là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Mais si, il y a 20 ans, il était au pied du mur, dans les premiers, avec son petit piochon. Et 20 ans avant, il avait 14 ans, avec Georges Pompidou, c'est eux deux qui étaient dans le LEM et qui ont marché sur la Lune les premiers. On ne pouvait pas les reconnaître dans le scaphandre, c'est normal. Mais puisqu'on vous dit que c'était eux, à bientôt.
Aïe, 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 l'époque est difficile. À chaque jour, à chaque nouvelle, ça parle d'interrogation, de dégoût souvent. C'était samedi, les infos de 13h. Chirac invité à un salon du livre, ovationné par la foule. Tant de cons au mètre carré, je me suis dit. On ne doit pas voir ça tous les jours. Le sens moral ne devait pas être le sentiment le plus développé chez ces crétins qui applaudissaient en Chirac un individu qui doit avoir assez de casseroles au cul pour équiper tous les 3 étoiles de France et même au-delà. Et de plus, je venais de quitter un article de Politis sur la comparution immédiate. Ce qui m'a laissé à penser, après l'accueil fait à Chirac, que les jugements que j'avais lus devaient être compensatoires. On ne peut pas juger les puissants, alors on met le max aux plus démunis. Dure époque.
Oui, salut Daniel, c'est Pierrot des Cévennes. Écoute, là, il y a un truc un peu bizarre, je sais pas si c'est normal, mais je commence à en avoir un peu ras-le-cul là, de ces commémorations. Hein. C'est un petit peu chiant, hein, c'est redondant, et blablabla, blablabla, la liberté ceci, la liberté cela. Là, je viens d'entendre un truc, la France mutualiste, la liberté des peuples, voilà, que les gens puissent circuler, c'est magnifique, la liberté derrière le mur, ouais, d'accord, mais... Ceux qui se touchent la nouille aujourd'hui sont les mêmes qui s'amusent à renvoyer les Afghans et autres peuples brimés chez eux. Enfin, je sais pas, ça sent mauvais, quoi. Je sais pas, ça pue la merde, cette histoire encore. Mais bon, c'est comme d'habitude, à partir du moment où tout le monde est d'accord pour une chose, je sais pas pourquoi, j'ai un réflexe, moi je suis pas d'accord. Bonne journée.
Daniel, au secours! J'ouvre une oreille ce matin, qu'est-ce que j'entends? De Morand qui souhaite la bienvenue à Sa Majesté Vacuité Intellectuelle BHL. Toute la journée, là, on nous parle de la chute du mur de Berlin comme si c'était, comme s'il n'avait pas été remplacé par le mur de l'argent, comme s'il n'y avait pas 3 pays membres de l'Union européenne à qui le FMI avait enjoint de diminuer les retraites de leurs habitants, etc. Enfin, vraiment, j'espère que tu vas nous faire une émission un peu moins consensuelle et un peu moins agite-propre, quoi. Franchement, c'est l'horreur.
Alors là, moi, je dis, le mur de Berlin ras-le-bol. Ça fait 10 jours qu'on nous rabat les oreilles avec ci, avec ça, avec les... cailloux, avec les témoignages, avec les reportages, triomphalement nous avons gagné, d'accord, ok, bon, et alors, maintenant plus moyen d'y échapper, aujourd'hui je dis, ras-le-bol, on n'a pas été foutu d'inventer un système plus performant que de reproduire 10% de seuil de pauvreté, du suicide au travail, bon, ça suffit.
Bonjour, c'est Fabienne, je voulais juste, parce que depuis ce matin, le mur de Berlin, je ne veux pas nier, j'ai pleuré en 89 en me disant « chouette, ça va être merveilleux ». Malheureusement, ben, ça fait 20 ans qu'on peu à peu, on en revient de plus en plus. Non pas que je regrette que le mur de Berlin ait été détruit, ce que je regrette, c'est ce qu'il en a résulté. Mais quand c'est arrivé ce jour-là, je me suis dit « ah, on parlera plus jamais de la mort de De Gaulle du 9 novembre ». Alors là, ça fait 39 ans. Bon, j'étais pas une fanatique de De Gaulle, mais alors avec ce qui se passe actuellement, ben, je me dis que quelqu'un qui payait le goûter de ses petits-enfants à l'Élysée, eh ben, ça devait être pas quelqu'un de si mal que ça. En plus, il disait que la politique ne se fait pas à la corbeille. Il n'y a plus de corbeille. Mais la politique, elle se fait carrément dans les bourses. Merci, au revoir.
Oui, bonjour Daniel. Voilà, ben je suis moi, un des déçus de la chute du mur. Pas déçu parce que les gens de l'Est ont trouvé leur liberté, et je trouve que c'est très très bien, mais un déçu de la manière politique dont on a fait cet événement. Aujourd'hui, le communisme soviétique n'existe plus, mais le communiste chinois existe toujours, avec plus de 100 millions de morts à la clé, et l'UMP s'est associé avec, c'est très bien, formidable, vive l'association UMP et le Parti communiste chinois. Et en attendant, ben c'est vrai, les gens de l'Est sont plus libres, ils sont au chômage, ils n'ont pas de boulot, ils ont des enfants à faire vivre, ils ont du mal à payer les loyers. Je ne sais pas si ça a été une réussite. Tant qu'il y avait du communisme, il y avait toujours des avancées sociales en France parce que l'Europe avait peur que nous soyons communistes tous. Et maintenant qu'il n'y a plus de communistes, eh ben, il n'y a que des pauvres, il n'y a que des chômeurs, il n'y a que des gens qui sont exploités. Donc je ne sais pas si c'est une véritable fête. Pour moi qui suis un ancien communiste, ce n'est pas une fête. C'est plutôt une défaite de l'idéologie de l'individualisme. Du moi, de j'ai plein de fric et les autres n'ont qu'à crever. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on taxe les clopeurs en disant que c'est des salauds, des assassins. On oublie qu'ils rapportent je ne sais plus combien de milliards d'euros aux caisses de l'État. Donc voilà, voilà, on a le droit de mourir de faim, on a le droit de ne pas avoir de travail, on a le droit de d'ouvrir sa grande gueule dans un pays libre, capitaliste. Et qu'avant, ben, dans les pays communistes, on devait fermer sa gueule, on devait surtout pas crier et on crevait de faim aussi. Donc je ne sais pas lequel des deux a gagné, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a tous perdu.
Oui, ras-le-bol d'entendre et de voir sans cesse la fête à Berlin. Gros budget pour fêter la chute du communisme. Est-ce que dans 20 ans, on fêtera la chute des places boursières ?
Oh Daniel, que je suis content ce soir de rentrer du boulot de Marseille là, Olivier. C'est génial d'écouter ton émission là-bas si j'y suis. Il est maintenant 5h. Voilà, c'était. Ça me rappelle la folle époque où quand je rentrais avec mon minot, on écoutait ton émission, que c'était que du bonheur. Je suis excité et je peux plus l'écouter et je le regrette vivement. Allez, continuez bien et à bientôt.
Il y a trois façons de mener le peuple. La plus usuelle, c'est le bâton. Pratiquée dans tous les régimes, sous toutes les latitudes. La moins coûteuse, c'est la carotte. C'est la moins coûteuse parce que l'on peut observer chez tous les individus cette tendance à croire que même s'il n'y a qu'une chance sur 1 million d'attraper la carotte, chacun pense que c'est elle ou lui qui l'attrapera. Elle n'est donc pas coûteuse puisque point n'est besoin de fournir autant de carottes qu'il y a d'individus. Au contraire, la rareté de la carotte développe l'esprit de compétition. C'est le fondement du capitalisme. Mais la méthode la plus efficace reste la propagande. C'est-à-dire la méthode qui permet, par le déploiement d'un faste festif dont ils ne sont que les spectateurs, de faire croire aux anonymes du public qu'ils appartiennent à la meilleure société possible. Eh bien, en ce lundi 9 novembre 2009, lors des fêtes de la célébration du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, Radio France a administré la preuve de sa maîtrise des techniques de la propagande. Jusqu'à ton intervention sur l'antenne, exceptionnellement à 16h30 aujourd'hui, je pensais, Daniel, s'il y a bien une chose pire que d'être mis au banc de la société, c'est d'en faire partie. Pour cette raison, j'ai reçu les propos par lesquels tu as entamé ton émission avec une immense satisfaction et un non moins immense soulagement. Enfin un peu d'oxygène dans cette atmosphère saturée d'encens capitalistes, gracieusement offert par l'association des multinationales de la parfumerie. 20 ans de liberté, comme ils disent. Liberté pour les industriels, banquiers, affairistes de tout poil et surtout du monde nord-occidental, de se faire encore plus de pognon sur le dos des administrés, comme on dit. Avec la bénédiction des institutions infiltrées par leurs larbins et de ce fait, acquises à leur cause. Selon la très belle formule d'une des femmes que tu as interviewées, depuis la chute du mur, ceux qui sont en haut en ont encore plus, l'État les protège, et les pauvres sont encore plus pauvres qu'avant.
La bataille des idées. Voilà ce qu'il faut faire exister, la bataille des idées, et si possible à armes égales. un point de vue, un autre point de vue, mais pas de choses fourbes, pas de coups fourrés, pas de pieds qui vous taclent de biais. De face, la bataille des idées, et la journée d'hier en a fourni un bel exemple, effectivement, propagande contre propagande, et il est effectivement dommage que la bataille des idées n'ait pas eu lieu complètement, mais qu'on en ait entendu là une amorce, souhaitons-le pour le moins. Un sondage réalisé dans 27 pays par la BBC fait apparaître un très large rejet du capitalisme de marché dérégulé. Près d'un quart des sondés, et 43% en France, jugent ce système fondamentalement déficient, et la moitié souhaite que les gouvernements agissent pour le réguler. Mondialement, 67% des personnes interrogées réclament une action des pouvoirs publics en faveur d'une redistribution plus équitable des richesses. Je vous lis là une présentation d'un sondage effectivement publié par la BBC ce 9 novembre 2009. Des sondages mondiaux, c'est quand même relativement rare et ça mérite votre attention. Vous pouvez en savoir plus sur le site Contre-Info, qui donne des précisions sur ce sondage. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on va retrouver aujourd'hui l'équipe du Monde diplomatique, ce que nous faisons chaque mois. Mais ces idées, les idées que finalement le capitalisme de marché dérégulé n'est pas forcément la meilleure chose et qu'il serait peut-être souhaitable que les États et gouvernements reprennent la maîtrise de la finance et de l'économie, eh bien c'est une idée souvent exprimée par l'équipe du Monde diplomatique. Et c'est une idée dont on se fait depuis longtemps l'écho dans la basse, j'y suis depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà, la bataille des idées, c'est ça aussi, c'est d'opposer des idées, des conceptions, des concepts les uns aux autres et de voir ce qui finalement correspond le plus aux attentes et aux espérances des peuples. Voilà. Donc aujourd'hui, le Monde diplomatique de ce mois de novembre, avec Serge Halimi, Maurice Lemoine, François Ruffin, le bien connu François Ruffin, Evelyne Pieler, Lionel Richard et Marc Andevelde, interrogé par Guy Ventil de la Bassie. J'y suis. Mais auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
À tous les AMG qui se sentiraient légèrement saturés des berlinades orchestrées par la propagande d'Achtafel, je conseille la visite d'un de ces nombreux foyers où l'intelligence résiste encore et toujours. Visitez l'exposition du Musée d'Histoire Contemporaine sur le thème « Berlin, l'effacement des traces ». C'est à Paris, aux Invalides, jusqu'à la fin de l'année, du mardi au dimanche, au rez-de-chaussée, au fond de la galerie, à gauche après avoir passé le porche. L'expo est accompagnée d'un colloque et de projections documentaires extrêmement intéressantes. À toute fin utile, consultez le site http://www.bdic.fr ou renseignez-vous par téléphone au 01 44 42 42 44.
Bonjour à tous. Cela fait un bon moment que je souhaitais te téléphoner, cher répondeur, afin de te suggérer une émission sur la santé, vu sous l'angle des affections de longue durée, dites à 100%, enfin prises en charge à 100%, et qui concernent des personnes âgées, handicapées, qui assument un reste à charge intenable, bref, qui signifie devoir choisir entre survivre pour se soigner ou l'inverse. C'était Laura.
Oui, salut Daniel, c'était pour t'informer d'une chose que peut-être tu ne sais pas trop, c'est Facebook. Sur Facebook, il y a un groupe qui demande la démission de Sarkozy, et en quelques jours, mais vraiment 3-4 jours, il y a eu plus de 160 000 personnes qui se sont mises sur ce groupe. C'est énorme, voilà. Et puis, je te dis pas, sur le mur, toutes les insultes et tout ça, bon, en même temps, c'est bien parce qu'on peut parler, quoi. Mais bon, voilà, il y a des groupes comme ça. Enfin, bon, c'est que du cyber, hein, mais j'espère qu'un jour, peut-être qu'on passera en réel. Allez, salut.
Bon bah voilà, mardi 10 novembre, 9h du matin, le journal de France Inter commence par cette inadmissible grève à Paris sur le réseau, le RERB qui ne va pas. Un sujet d'une minute 30. Une minute 20 dédiée à pourquoi le service minimum marche mal, encore une fois inadmissible, pour enfin, au cours des 10 dernières secondes, avoir une phrase qui nous dit pourquoi cette grève ? Voilà, alors que c'est quand même ce qui nous intéresse. Pourquoi est-ce que les gens font grève ?
Salut, c'est Daniel Mermet. C'est là-bas que j'y suis avec Guy Van Til. Le monde diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from...
Serge Alimi, je vous retrouve avec une partie de la rédaction du Monde Diplomatique pour ce numéro de novembre 2009 où vous faites un éditorial qui est en écho avec un dossier du Monde Diplomatique en prenant la situation en Afghanistan et en prenant l'exemple de Monsieur Barack Obama qui s'est fait nouveau prix Nobel de la paix. Ce que vous racontez, c'est comment un prix Nobel de la paix peut s'engluer dans une guerre qui ressemble de plus en plus au Vietnam.
Comment peut-il s'engluer ou va-t-il s'engluer ? Parce que là, la question lui est posée, on attend une réponse dans les prochaines semaines. Va-t-il envoyer en Afghanistan 40 000 soldats supplémentaires ? C'est un énorme problème politique pour Barack Obama. On peut dire que, à l'égal du dossier de la santé sur le front intérieur, le dossier de l'Afghanistan, l'envoi ou non de troupes supplémentaires et le déroulement de cette guerre nous dira quel est le bilan de sa présidence. Alors, il faut un peu présenter les termes du débat parce que c'est une vraie difficulté politique pour Barack Obama. Lors de sa campagne, vous en souvenez, il a en quelque sorte opposé la guerre d'Afghanistan, guerre nécessaire, guerre morale, pour reprendre ses termes, à la guerre d'Irak. Et plus il s'opposait à la guerre d'Irak, plus il indiquait que, n'étant pas pacifiste, il était tout à fait disposé à jouer son rôle de commandant en chef des troupes de l'Empire américain, en quelque sorte déployant davantage de soldats en Afghanistan. Et son discours, dont on se souvient, qui a lancé sa candidature, son discours d'opposition à la guerre d'Irak, au moment où très peu de démocrates s'opposaient à la guerre d'Irak, qui était immensément populaire dans le pays, où George Bush avait des taux de popularité stratosphériques, donc Obama a pris le contre-pied, ce qu'on a jugé courageux, en déclarant « je ne suis pas contre toutes les guerres, mais je suis contre les guerres stupides ». Il opposait donc la guerre stupide d'Irak à la guerre morale et nécessaire d'Afghanistan. Donc il est maintenant difficile de se dégager de la guerre d'Afghanistan, surtout pour Barack Obama après sa campagne. Problème militaire. La guerre d'Afghanistan dure depuis 8 ans et on peut dire que les résultats ne sont pas seulement nuls, mais qu'ils sont négatifs. Les talibans sont plus puissants qu'avant. Et chaque mois de guerre supplémentaire semble renforcer la position des talibans. En d'autres termes, la présence militaire de l'OTAN en Afghanistan conforte la force même qu'on espérait détruire. Les talibans, qui étaient détestés au moment de leur chute, pour toutes sortes de bonnes raisons sur lesquelles j'ai pas besoin de revenir, parce qu'ils étaient à l'évidence détestables, redeviennent populaires en se présentant comme les combattants du nationalisme afghan contre une invasion occidentale. Alors, qui le dit ? Est-ce que c'est moi qui le dis ? Non, pas du tout. C'est Stanley McChrystal, le commandant en chef américain des forces de l'OTAN en Afghanistan, qui a déclaré que le pouvoir d'Hamid Karzai en Afghanistan a accompli cette performance exceptionnelle de, je cite, « rendre une fraction du peuple afghan nostalgique de la sécurité et de la justice du régime taliban ». Bon, donc on a
rêvé, quoi.
Là, c'est vraiment rendre les gens nostalgiques du régime taliban, compte tenu de ce qu'on sait de ce régime, c'est effectivement une performance. Alors que faire ? La stratégie de McChrystal et de David Petraeus, qui a été le commandant en Irak et qui maintenant commande l'ensemble de la région, c'est d'envoyer des soldats supplémentaires. Il y a environ 65 000 soldats américains. Il dit, écoutez, envoyons-en 40 000 de plus. Et puis, comme ça, on aura une chance de gagner la guerre. Il faut préciser qu'ils ne disent pas « on gagnera la guerre demain ». Il dit, si on envoie 40 000 soldats de plus demain, peut-être que dans 10 ans, on gagnera la guerre. Mais de toute façon, ce sera très long. Et ça prendra probablement 10 ans. Bon, quel est l'avantage de leur demande? C'est qu'en quelque sorte, ils dégagent leur responsabilité militaire. S'ils n'obtiennent pas les troupes, ils diront, c'est parce que les civils n'ont pas voulu fournir les troupes, on aurait pu gagner la guerre, et encore une fois, un président un peu couard, etc. C'est toujours la théorie des militaires, vous savez.
C'est le major qui ouvre son parapluie, quoi.
Voilà. Alors c'est à la fois, face à une demande de ce type, difficile pour Obama de dire oui, parce qu'il y a le risque d'un nouveau Vietnam. Après tout, l'engrenage des troupes supplémentaires qui vont remporter la guerre, on a connu ça. Et puis on a eu jusqu'à plus de 500 000 soldats américains au Vietnam qui ont dit repartir sur un bilan d'échec total. Et puis c'est difficile de dire non, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Un président démocrate est toujours plus ou moins perçu comme capitulaire, même si les démocrates s'engagent dans des guerres avec à peu près autant d'allégresse que les républicains. C'est Barack Obama, après tout, qui a nommé McChrystal commandant en chef des forces en Afghanistan. Donc c'est difficile de le nommer commandant en chef et puis de ne pas accéder à ses demandes. Et puis, quand on est aux États-Unis, ce qui est très frappant, puisque j'en reviens, c'est que à chaque fois qu'une perte militaire américaine est annoncée, vous avez le déchaînement de la presse conservatrice et de Fox News sur le thème « Ces soldats sont morts parce que le commandant en chef hésite ». Et parce qu'il ne fournit pas les troupes nécessaires qui permettraient de protéger les troupes américaines. Alors naturellement, nous, notre logique, c'est après tout, ces soldats sont morts parce qu'ils sont là-bas. Si on les rapatriait, ils auraient moins de chances de mourir. Mais la logique républicaine est tout autre. Ces soldats ne mourraient pas s'ils pouvaient mener la guerre correctement. Et ça exige 40 000 soldats supplémentaires. Quelle est à l'heure actuelle la stratégie américaine qui, en quelque sorte, fait l'unanimité? C'est une pacification. Ça, c'est un vieux classique. On commence à le connaître dans toutes les guerres occidentales, dans un certain nombre de guerres coloniales. On tient le territoire militairement. On essaie de construire des routes, des écoles pour s'attirer la reconnaissance de la population. Mais évidemment, on sait qu'on ne peut pas construire des routes et des écoles si le territoire n'est pas militairement tenu, parce que ces routes, ces écoles, etc., risquent d'être détruites par les insurgés. Donc, il faut faire la guerre et la paix à la fois. Il y a une formule que je cite donc dans cet éditorial, qui est la formule d'un journaliste américain dans les années 60 à propos de la guerre du Vietnam, à propos de cette contre-insurrection et de cette pacification, qui est, voilà, c'est les bonbons le matin, le napalm l'après-midi.
Sur les mêmes populations,
s'entend. Sur les mêmes populations, évidemment. Et Bernard Kouchner, le ministre français des Affaires étrangères, a résumé ça en disant qu'il fallait gagner les cœurs avec un gilet pare-balles. Alors, sur cette stratégie d'ensemble, il y a un accord des Occidentaux, puisque Nicolas Sarkozy a déclaré dans un entretien au Figaro, et cette déclaration faisait à peu près 4 ou 5 lignes, ce qui montre l'intérêt qu'on accorde en France à cette guerre dans laquelle, après tout, nous sommes engagés. Il a posé la question, faut-il rester en Afghanistan? Et il a répondu lui-même à la question qu'il avait posée, mais je pense que les journalistes du Figaro ne lui auraient pas posé de questions beaucoup plus stimulantes ou beaucoup plus agressives. Je réponds oui et rester pour gagner. Le problème, c'est que cette guerre, elle est perdue d'avance. Les Britanniques, au XIXe siècle, les Soviétiques, n'ont pas réussi à conquérir l'Afghanistan, alors même que les Soviétiques avaient déployé des moyens militaires particulièrement importants et qu'ils avaient été vaincus par des troupes islamistes, alors soutenues par les États-Unis. Ce qui montre qu'il n'y a pas d'opposition, a priori, insurmontable entre les États-Unis et les islamistes, puisqu'à l'époque, ils s'entendaient très bien. Et à l'époque, les islamistes n'étaient pas des progressistes voltairiens, qui défendaient les droits de l'homme et la civilisation des Lumières. Ce qui rend un peu hypocrite ces protestations sur les violences, la brutalité, l'archaïsme, le féodalisme des talibans à l'heure actuelle. Donc ils ont été vaincus. Et il faut rappeler aussi que le gouvernement que nous soutenons, le gouvernement d'Hamid Karzai, est un gouvernement qui ne se maintient que grâce à la fraude électorale. Parce qu'on est dans une situation assez curieuse où la fraude électorale est admise par tout le monde, où on dit qu'elle est massive, ça ne change rien.
Et on félicite le vainqueur.
Voilà, et on félicite un peu d'ailleurs comme en Tunisie, où on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de fraudeurs qui sont beaucoup mieux traités que d'autres. Donc cette guerre me paraît perdue. Elle est d'autant plus perdue que d'une part, il y a les forces occidentales qui sont perçues comme des forces d'invasion. Et d'autre part, il y a un gouvernement qui est ultra corrompu, puisque j'entendais sur votre antenne Bernard Kouchner qui admettait que 90% de l'aide occidentale était détournée. Bon, c'est tout de même peu encourageant quand il s'agit de fournir davantage de moyens à ce régime. Et dernière chose sur laquelle j'aimerais quand même proposer un commentaire, c'est que quelle est la part de l'Europe là-dedans ? Si vous voulez, nous sommes engagés dans cette guerre, il y a 31 000 soldats sur le terrain, et nous, on parle d'autre chose. On parle des robes des unes, des commémorations à n'en plus finir d'un événement que je n'évoquerai pas, etc., des autres, alors que nous sommes en guerre, que cette guerre n'offre aucune perspective et qu'on abandonne apparemment l'essentiel des décisions au président des États-Unis. I see y'all too. Now what? I pledge resistance to the grass that hides the snakes of America, so they're watching. Now I walk with caution, more careful, put more thought to options. It's the opposite of progress, Congress. From the school to the streets, we're beyond stress. But I fight for peace, that's what the problem is. War is big biz, ask an economist. They're speaking volumes, just calling anti-war and anti-American synonymous. Back in the day, I'd have gotten blacklisted just for speaking up. Hoover probably would have screamed communist. I want black and brown unity, but cats get out and bring that jail shit to the community. Fighting's nothing new to me. I even corrected what the public school system tried to do to me. Here's the spark encoded in rhyme and love for every one of the devoted in line. We call it art, some call it a crime. It's the rap Michael Moore like bowling for Columbine. On drums, Fahrenheit 911. Al-Qaeda hit the apple and the world was stunned. The villain trained by the hero for killing. Now you twist $20 bills up to see buildings. Under heavy surveillance, they might call you a traitor if you want something greater. Don't get me wrong, America's a great place to live. Just listen to the knowledge I give. If more than half the budget goes to military spending, less than half goes to whatever it's defending. One nation, many gods, individuals with liberties and justice for all who are miserable. Gente del mundo, esta música que estamos tocando, esta cultura de hip hop, es la última oportunidad para tus hijos, para que oigan mensajes de paz, de revolución. Escucha la verdad en la música.
Suite de ce sommaire du monde diplomatique de novembre 2009, avec vous Maurice Lemoine, qui avait envie de rebondir sur deux articles qui sont au sommaire pour parler d'autre chose, à savoir un article excellent de Bernard Umbrecht au sujet de Berlin et des commémorations qu'on a évoquées en longueur sur Radio France, et aussi un article d'Anne Vignat sur un autre mur qui se situe sur la frontière états-uno-mexicaine qui est à Tijuana et qui sépare les maquiladoras, les usines d'un côté où les salariés sont exploités, du marché plus au nord. Mais vous avez envie de me parler des commémorations aussi, Maurice Lemoine.
Moi, je veux parler d'autre chose. Non, je vous ai senti un peu dubitatif là, en parlant de Berlin, de Radio France, de la présence de Radio France. Moi, je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Je veux dire, les commémorations ont leur utilité, dès lors qu'elles rappellent la longue histoire du manque de liberté et des luttes contre ces manques de liberté. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une effervescence, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, mais d'une certaine manière, on peut dire que c'est la fête de tous ceux qui se sont battus pour la liberté. Et c'est vrai que la période s'y prête. Souvenez-vous, 14 décembre 89, fin de la dictature de Pinochet au Chili. Depuis 1973, le Chili était sous la botte des militaires. Depuis le 11 septembre, Pinochet n'est pas parti pour le plaisir de partir. C'est parce qu'il y a eu des luttes très très dures au sein du Chili, qui n'ont pas été très médiatisées d'ailleurs à l'époque, c'est ce qu'on appelait les protestas, c'est-à-dire les gens dans la rue. En 84, par exemple, elles ont fait une centaine de morts. Et donc, Chili, décembre 89, fin de Pinochet. Mais 89, c'est aussi la fin de la dictature au Paraguay. Dictature qui était là depuis 1954, presque aussi vieux que le mur, d'une certaine manière, on pourrait dire. Puis, tout petit peu avant, le Brésil sort de la dictature en 1985, était sous la botte des militaires depuis 64. Et puis, l'Uruguay, depuis 73, sort en 84. En 82, on a la Bolivie qui sort de la dictature à laquelle elle a été soumise depuis 71, l'Honduras en 1963, de sorte que, en matière de commémoration, je me réjouis de savoir que l'ensemble des médias, les journalistes vedettes, Bernard Guetta, Bernard-Henri Lévy, seront à Santiago du Chili le 14 décembre prochain, qui sera un petit peu la phase ultime de la libération de l'Amérique latine, et qu'on va avoir une commémoration avec en grande pompe, avec des feux d'artifice, du violon, etc. Alors, je lis dans vos yeux un certain scepticisme.
Oui, j'ai pas été informé par la direction des programmes encore de telles festivités.
Oui, c'est bon, mais peut-être que... moi, je m'interroge, je me dis, mais alors pourquoi pas? Mais peut-être que la guerre froide n'est pas terminée en Amérique latine. Après tout, peut-être que la guerre froide n'est pas terminée. Vous vous souvenez sûrement, comme moi, 20 décembre 89, quelques jours après la chute du mur, les États-Unis envahissent le Panama. Alors certes, c'était pour se débarrasser du général Manuel Noriega, qui n'était pas un personnage très ragoûtant, ancien agent de la CIA, narcotrafiquant. Néanmoins, 4000 morts pour se débarrasser d'un narcotrafiquant, c'est un peu comme si les États-Unis envahissaient l'Afghanistan pour se débarrasser des proches de Karzai. Alors, la comparaison n'est pas tout à fait juste, parce que l'Afghanistan, ils y sont déjà, mais c'est pas pour se débarrasser des corrompus, hein.
Oui, puisqu'on voyait dans l'article précédent que l'Afghanistan produit 91% de l'héroïne mondiale.
Tout à fait. Et puis 89, les États-Unis poursuivaient leur agression contre les sandinistes au Nicaragua, qui n'était pas un régime communiste, hein. Je rappelle que, au Nicaragua, à l'époque des sandinistes, il y avait moins d'entreprises publiques ou d'entreprises d'État qu'en France ou en Italie. On était loin du système totalitaire. Les États-Unis appuyaient également le Salvador, où les gens se battaient contre un régime qui avait été mis en place en 1932, avec des présidents d'opérette dirigés par les militaires. Il y avait encore la guerre au Guatemala, appuyée par les États-Unis. Résurgence, conséquence du coup d'État de 1954.
Par les États-Unis et par un certain nombre d'intellectuels français qui nous parlent des droits de l'homme en ce moment, et qui signaient des pétitions en faveur des contrats du Nicaragua.
Quels des noms ?
L'un de ceux que vous avez invité sur votre antenne, qui est un néo-philosophe, je crois.
Ah, je vois vaguement, oui.
Néo-philosophe. Alors bon, vous allez me dire, tout ça, c'est du passé, on est en 2009, on va pas pinailler sur
oui,
des...
Oui, on va pas avoir tout le temps l'œil sur le rétroviseur aussi.
Est-ce qu'elle est terminée, la guerre froide ? Qu'est-ce qui se passe au Honduras en ce moment ? Au Honduras, on renverse le président Manuel Zelaya le 28 juin dernier. L'affaire traîne, la communauté internationale s'émeut, lentement, mais s'émeut. L'Amérique latine s'émeut réellement. Et puis finalement, Thomas Shannon, le sous-secrétaire d'État des États-Unis, descend à Tegucigalpa le 30 octobre. On a enfin un accord, au terme duquel on va ramener le président Manuel Zelaya au pouvoir. Et puis ensuite, on pourra organiser les élections du 29 novembre prochain dans le cadre d'un gouvernement d'unité nationale. Et puis à peine Thomas Shannon a-t-il tourné les talons que le dictateur, le putschiste, Roberto Micheletti, rompt l'accord, nomme son propre gouvernement d'unité nationale, du nom national, et puis prétend organiser les prochaines élections du 29 novembre prochain. Les États-Unis disent, à partir de maintenant, c'est une affaire entre Honduriens, de sorte que le coup d'État réussit et que vraisemblablement, dans quelques temps, nous aurons le Karzai hondurien. Et puis, nous sommes aussi toujours dans un contexte de guerre froide, puisque les États-Unis installent 7 bases militaires en Colombie, hein, dont l'une à 20 minutes de la frontière du Venezuela, pays dans lequel les incursions de paramilitaires colombiens sont en train de se multiplier. Donc, il n'y a pas vraiment matière à se féliciter du retour de la liberté et de la démocratie. D'autant que, et là nous revenons au monde diplomatique, je m'étais un petit peu écarté, puisqu'on parle de murs. Parlons de murs. Il y a un mur au Mexique. Il y a un mur entre le Mexique et les États-Unis. Un mur qui a été érigé, un mur métallique, un mur odieux, qui a été érigé pour empêcher les Mexicains pauvres, qui ont été jetés dans la pauvreté par le capitalisme triomphant, peut-être depuis la chute du mur de Berlin. Je précise d'ailleurs que le mur de Berlin n'a jamais été sympathique. Hein, entendons-nous bien. Mais il faut le dire, il faut préciser les choses. Mais ce mur... est d'une certaine manière le symbole de ce capitalisme triomphant et l'enquête, le reportage qui a été mené ce mois-ci pour Le Monde Diplomatique par Anne Vignal, journaliste au Mexique, c'est sur les maquiladoras, ces usines de sous-traitance qui sont précisément installées juste avant le mur, qui était au départ conçu d'ailleurs pour arrêter la vague de pauvreté venant du Mexique, puisque c'était des usines de sous-traitance délocalisées des États-Unis qui venaient bloquer le flot d'immigrants en leur offrant du travail dans des conditions certes précaires, certes mauvaises, certes socialement désastreuses, mais en tout cas qui les arrêtaient. Il se trouve que compte tenu de la crise économique globale, et en particulier de la crise économique des États-Unis, ces maquiladoras sont en difficulté, sont en train de fermer. Alors il n'y avait déjà pas de syndicats, mais imaginez les licenciements dans ces conditions-là. Et la situation dans ces maquiladoras est absolument tragique pour la population, qui peut difficilement revenir en arrière, mais qui ne peut pas avancer vers les États-Unis puisqu'il y a le mur, de sorte que la commémoration de la chute d'un mur mériterait de plus amples réflexions.
Ceci est la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour que les générations se souviennent de l'apocalypse.
On continue de parcourir le sommaire de ce monde diplomatique du mois de novembre avec un journaliste que je vais faire semblant de ne pas connaître, et vous aussi, chers auditeurs. Il s'agit de François Ruffin qui revenait, cher François Ruffin, d'un reportage en Guadeloupe où vous êtes allé voir ce qui se cachait derrière le LKP et derrière la figure qui nous a été présentée comme le grand leader Élie de Mota. Et vous voyez, vous, une flamèche obstinée, c'est-à-dire un ferment, un terreau de protestation et de revendication syndicale.
Bah, la question qui se posait au printemps, c'est comment ça se fait que ça marche chez eux et que ça marche pas chez nous ? Comment ça se fait que, bon, nous, on a 1, 2, 3 millions de personnes dans la rue, 1, 2, 3 fois, mais disons que ça prend pas de la même manière que ça a pu prendre en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'ils avaient une potion magique ? Est-ce qu'il fallait qu'on distille du rhum avec nos betteraves ? Il y avait une interrogation comme ça. Qu'est-ce qu'on devait faire, quoi ? Parce que l'image qui était reçue ici, c'était celle d'un surgissement. C'est-à-dire, dans les médias, d'un seul coup, il y a le LKP qui apparaît, il y a des manifs partout, ils sont en train de prendre la Guadeloupe.
Comme si c'était un événement.
Voilà, c'est un événement. Événement, d'ailleurs, c'est un surgissement. Il n'y a rien la veille, et au gros, il n'y a rien le lendemain, quoi. Mais ça marchait d'autant plus que ça répondait, je pense, à une illusion politique. Une illusion politique à gauche ici. C'est-à-dire, comme si ça allait péter. Ça allait péter tout seul. Il y a une forme de spontanéisme. On croit que ça va péter, ça va venir presque tout seul. Or, quand on se rend sur place, quand on rencontre les militants, ce qu'on découvre, c'est que, au contraire, c'est un lent et patient travail d'organisation, notamment d'une organisation principale derrière le LKP qui est l'UGTG, hein, l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens. Et c'est un syndicat qui est fort non pas tant par le nombre de ses adhérents, que j'irai d'abord par le travail de ces militants, puisque c'est du tractage permanent, ce qui est quelque chose que, en France, enfin, en métropole, on a pu plus ou moins abandonner au profit des mailing lists, quoi. Bon, là, il y a un travail de tractage permanent à la sortie des cimetières, le dimanche à la sortie de la messe, et ainsi de suite. Bon, il y a tout ce travail de terrain. Et ensuite, c'est par la force des convictions qui habitent ces militants. C'est-à-dire, je me trouvais par exemple dans la voiture d'un des syndicalistes qui s'appelle Eddie Damas de l'UGTG, et dans son coffre, je tombe sur une brochure pour un syndicalisme de classe, pour un syndicalisme de masse, avec une dénonciation des syndicats qui se corrompent et puis tout ça. Et je regarde la date sur la couverture, c'est marqué 2005. Republication d'une brochure de 1975. Ça veut dire qu'ils avaient fait reparaître 30 ans après, tel quel, ce qui était leur programme en 1975. Alors je l'interroge, je lui dis, bah, comment ça se fait que vous faites reparaître ça ? Bah oui, ça c'est ce qui nous sert, si vous voulez, pour la formation de nos militants. Alors il y a quelques trucs qui ont changé, mais en gros, l'essentiel y est. Et l'essentiel, c'est syndicalisme de classe, syndicalisme de masse. Et si on fait la comparaison avec ce qui s'est produit en France pendant ces 30 dernières années, imaginons que la CFDT décide de réutiliser en 2009 son programme de 1975, qui comprenait l'autogestion, le syndicalisme de classe, la lutte des classes, et ainsi de suite. C'était quelque chose de récurrent. Bon, ben, je veux dire, François Chirec, il s'étouffe avant d'avoir terminé la première ligne, quoi. Mais je dirais, de la même manière, il y a eu un recul également, de ce point de vue, à la CGT. Par exemple, lutte de classe, c'est une expression qui a disparu, je crois, depuis 1999, des congrès de la CGT. Ben, là-bas, on est resté, je dirais, assis sur ses fondamentaux. Et c'est ces fondamentaux qui ont été à l'UGTG, qui ont fait qu'ils ont gagné du poids dans le pays parce que les gens venaient syndiquer plutôt dans un syndicat combatif que dans des syndicats pas combatifs, qui fait que peu à peu, les autres syndicats, ils se sont dit, bon, si on veut survivre, on n'a qu'une seule chance, c'est de se lancer dans le combat. Donc on a vu la CGTG, donc la CGT guadeloupéenne, redresser la barre en se disant, non, il faut qu'on soit dans la bataille aussi, donc redevenir un syndicalisme de classe et un syndicalisme de masse. Et donc là, voilà, il y a eu une locomotive qui a été l'UGTG, qui s'est construite patiemment et qui a emporté les autres syndicats, puis ensuite des associations, éventuellement des partis, derrière elle. Mais en tout cas, ça n'a rien à fait de spontané, puisqu'au contraire, c'est la construction à partir de convictions fermes, d'un syndicalisme fort, qui permet d'entraîner le reste de l'île derrière lui sur la lutte contre la profitation, une profitation où on dénonce des exploiteurs. En France, il y a une crise, il y a des exploités, mais il n'y a pas d'exploiteurs pour l'instant. On ne sait pas quel est l'adversaire. Bon, bah, là-bas, que ça soit Ayotte dans la grande distribution, par exemple, les exploiteurs sont désignés.
Alors c'est quoi ? C'est l'équation magique du microcosme guadeloupéen ou il y a des conclusions et des modèles qui peuvent servir en métropole ?
Ben, moi je pense qu'il est évident qu'il y a une lutte d'indépendance aussi qui va avec ça. Mais je pense que ce qui se produit, où on a la construction d'un syndicalisme fort sur une ligne de lutte de classe, sur une ligne de syndicalisme de masse, c'est quelque chose qui devrait faire réfléchir les organisations ouvrières en France.
Guadeloupéens, nous pas venir faire la guerre, fait que la guerre ait toujours été sonnée. Tous ces messieurs-là, ils respectent nous. Pour y'a pas pour nous, pour des batailles à pays là.
Ah, la vie là bien chère, pour le bitin qu'a augmenté. Paye là pas qu'à changer, c'est malheureux qui qu'a prend faire dans ça. Chômage qu'a augmenté, la jeunesse en la rue là. Faut nous trouver une solution pour situation à faire pour de l'eau changer.
Nous voyons nous payer, nous pas fini faire la guerre. Mais nous payer la guerre, mais toujours été solide. Tous ces messieurs là, ils respectent nous. Pour y'a pas pour nous, pour des batailles en pays là.
En radio, en télévision, y'a qu'à bien informer nous. Tout le monde a constaté, solidarité y a fait pour nous. En force pour collectif, il y en a, je compte profitation. Tout le monde là est besoin, c'est un sam, nous qui est arrivé.
Nous voyons nous payer, nous pas fini faire la guerre. Mais nous payer la guerre, et toujours été solide. Tous ces messieurs là, qui respectent nous. Pour y'a pas pour nous.
Qu'est-ce tous les responsables? Si ça l'entoure en table, y'a pas trouvé en solution. Monsieur le préfet, représentant à l'État, pour vous être cisé, vous plaidez quand ça guadeloupéen, était cisé autant.
Nous guadeloupéens, nous pas fini faire la guerre, mais nous péquer la guerre, et toujours été solide. Tous ces messieurs-là, ils respectent nous.
Ceci est la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale, pour que les générations se souviennent de l'apocalypse.
Je suis sûr que parmi les 5 à 6 millions de téléspectateurs qui ont regardé Apocalypse ces derniers temps sur France Télévisions, il y avait de nombreux auditeurs de France Inter et peut-être même quelques lecteurs du Monde Diplomatique. Et vous, Lionel Richard, vous faites un retour justement sur ce documentaire qui a été présenté, vanté comme quelque chose d'exceptionnel, avec des images inédites, une espèce de cours d'éducation populaire pour nous montrer ce qu'il occulte ou ce qu'il résume peut-être un peu trop hâtivement.
Oui, on a présenté ça comme un cours magistral d'histoire, et bon, et non seulement en ce qui concerne les faits, il y a de nombreuses distorsions, des erreurs, donc il fallait revenir sur l'ensemble de ces images et la construction notamment d'Apocalypse. Hein. Et effectivement, le film commence juste avant 1933. Exactement, il y a un petit panneau qui annonce 1932. Et auparavant, il y a un préambule qui explique, au fond, que la guerre a été déclenchée par le pacte germano-soviétique, par la signature du pacte germano-soviétique, et notamment, bon, que Staline est co-responsable de la déclaration de guerre. Et là, on a une rupture, au fond, c'est une espèce d'annonce générale de cette série. Il y a là une distorsion fondamentale, parce que finalement, on n'a pas du tout le climat, moral, ni intellectuel, ni général, qui existait en Allemagne avant 1933. Les grandes grèves, les courants politiques qui s'affirmaient par des manifestations dans la rue, le Parti national-socialiste qui descendait purement et simplement les militants qui s'opposaient à lui, les combats dans les rues, etc. Rien de tout ça. Et subitement, Hitler arrive au pouvoir. On ne sait pas pourquoi, on n'explique même pas pourquoi il est nommé par Hindenburg. Et évidemment, le raccourci également qui est fait de 1933 à 1939 ne permet guère de comprendre pourquoi l'Allemagne va s'engager dans la guerre en envahissant la Pologne.
Si je comprends bien ce que vous voyez derrière ce torrent d'images dont certaines ont été recolorisées, où on a rajouté des bruitages dessus pour les rendre plus saisissantes, plus accessibles au grand public, ce que vous voyez, ce sont des simplifications et des illusions.
Oui, oui, ce sont des simplifications. Mais je crois justement que ce qui domine à l'intérieur de cela, c'est, comme je l'ai dit, un amas de chars, des tanks, etc. C'est-à-dire, c'est la guerre elle-même qui écrase finalement le spectateur. Il ne sait pas trop de quoi on parle. Et sur ces images de guerre, qui en général ne sont guère compréhensibles, il faut bien le dire, parce qu'elles appartiennent en plus au service cinématographique des armées.
Donc à la propagande.
Donc à la propagande, indirectement. Eh bien, elles ne sont pas compréhensibles, ces images. Donc il faut mettre dessus un commentaire. Et un commentaire, évidemment, il faut l'inventer, ce commentaire. Et il est toujours, presque toujours, en décalage par rapport aux images. On pourrait prendre, évidemment, beaucoup d'exemples. Alors, est-ce que, d'un point de vue explicatif, d'un point de vue pédagogique, c'est quelque chose d'efficace? Non, on ressort avec, non seulement le fait que l'on n'a pas compris comment la guerre s'enclenchait, mais le problème, c'est que même la guerre, à travers les faits qui sont décrits, est contaminée par des omissions et des erreurs. Bon, je peux donner des détails. Par exemple, on a parlé du 9 novembre. 9 novembre 1989. Le 9 novembre dans l'histoire de l'Allemagne, c'est une date déterminante. Hein. Il y a le 9 novembre 1848 où Robert Blum est tué et c'est l'écrasement de la révolution de 1848. Il y a le 9 novembre 1918, création de la première démocratie en Allemagne. 5 ans après, c'est pas pour rien, 5 ans, 9 novembre 1923, Hitler organise le putsch à Munich, qui échoue. Ensuite, on a 9 novembre 1938, le fameux pogrom qui a été appelé par les nazis la nuit de cristal. Bon, 38. Et donc, en 39, vous avez un attentat. Le 9 novembre 1939. Dans le film, on nous dit que c'est le 8 novembre 1939. C'est le 9. Et on laisse entendre que c'est un attentat qui, au fond, a été fomenté par les généraux allemands, qui n'étaient pas d'accord avec Hitler. En réalité, c'est un attentat qui est fabriqué, imaginé par un individu, qui s'appelle Georg Elser, et ça n'a rien à voir avec les généraux. Donc, il y a dans le film constamment l'idée qui est montrée que Hitler est un mauvais stratège et qu'au fond, il a perdu l'Allemagne contre la volonté des généraux. Comme si l'armée n'avait pas été, justement, à l'origine du pouvoir de Hitler en Allemagne.
Oui, Serge Almi.
Oui, moi je fais partie donc des 6 millions de téléspectateurs qui ont vu cette série. Alors il est évident qu'on découvre beaucoup d'images qu'on ne connaît pas et que ça crée un sentiment d'intérêt. Et en même temps, je trouve que dans son article, Lionel Richard a très bien résumé la manière dont fonctionne la série Apocalypse. Il écrit « Les plans sont détournés pour être soumis à un discours préconçu où se condensent les poncifs que les médias vulgarisent depuis un demi-siècle. » Et c'est, à mon avis, une définition parfaite, un travail très idéologique où on se dit, voilà, quelle est la connaissance dominante à l'heure actuelle. On va utiliser des images qu'on a, effectivement des images de propagande.
Rendre ça sexy, voilà. Comme ils disent.
Et puis on va déverser ce discours-là avec une voix un peu emphatique.
En dernière page de ce Monde diplomatique de novembre, un article que vous avez écrit, Evelyne Pialer, qui s'appelle « Un conseil à ne pas suivre ». Il ne s'agit pas d'un conseil comme on pourrait donner une recommandation, mais plutôt le conseil pour la création artistique qui est dirigé par Marine Karmitz, nommée par notre président bien-aimé Nicolas Sarkozy, et qui vient, est-ce que vous le décrivez, vient couper l'herbe sous le pied du ministère de la Culture.
Oui, enfin, l'ensemble a une histoire triste et probablement extrêmement dangereuse. C'est à recouper le pied sur l'herbe du ministère, c'est pire que ça quand même. Parce que là, on accepte une présidentialisation qui est quand même hallucinante. D'autre part, on accepte que se crée ce conseil alors qu'un ministère existe. Puis le moment quand même où ce sont les 50 ans du ministère, l'ensemble étant assez pathétique, puisqu'il s'agit d'un conseil pour la création qui va déboucher sur des propositions d'animation extrêmement fluettes, qui n'ont rien à voir avec ni la création ni une politique culturelle, mais qui en revanche vont probablement tout à fait dans le sens de la réflexion sur la culture au niveau européen quand même. Mais ce qui est un peu désolant, c'est que le fond du fond, c'est la transformation, au fond, la transformation d'un peuple. C'est-à-dire que quand même, quand on parle de politique culturelle, on parle de création artistique au niveau national, etc., il s'agit, on a l'idée du peuple, d'un peuple. Or là, on va avoir l'idée de public.
Comme on a des parts de marché, quoi.
Oui, mais exactement, parce que c'est comme une sorte de gadget trompe-l'œil.
Parce que, quel est, pour expliquer aux auditeurs, quelle est l'ambition de ce conseil?
Je ne sais pas. On peut dire l'ambition qui a été affichée. Oui.
C'est déjà ça.
Ouais. Donc là, il y avait une mission. Alors, la mission, elle est quand même absolument délicieuse. Ils étaient chargés d'éclairer les choix des pouvoirs publics, d'assurer le développement et l'excellence de la création artistique, d'en promouvoir la diffusion et d'arrêter les orientations de nature à permettre leur mise en œuvre. Bon, ça, c'est l'ambition. C'est d'un flou absolu. Ça renvoyait à ce que disait M. Sarkozy, qui était admirable, là aussi. Je suis désolée, mais enfin, c'est quand même... On atteint des sommets de niaiserie. Là, c'est une crise morale et culturelle que nous traversons. Nous sommes en pleine confusion des valeurs. La culture est ce qui porte notre société. Bon, voilà. Donc, l'ambition, c'était ça. Hein. Ce conseil pour la création artistique, ça allait nous sortir de la confusion des valeurs et nous sortir de la crise financière. Formidable. Ce qui permettait d'oublier la chose qui est probablement... Enfin, il y a deux choses qui sont importantes. Qui vont être la division donc de ce peuple en public divers et d'autre part, d'arriver petit à petit à... arrêter les orientations de nature à permettre leur mise en œuvre. C'est une question de monnaie. Dans les propositions qui ont été faites, il y en a énormément qui tournent autour de l'informatique, d'Internet, de sous, c'est de ça qu'il s'agit, et, bon, très très certainement aussi, d'exploser la notion de création artistique relevant d'une politique culturelle nationale, de l'exploser au profit du patrimoine, de cette fichue diffusion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est à la fois gaguesque, parce que ça donne rien, je veux dire, il n'y a pas de quoi non plus.
C'est un gadget, vous dites.
Oui, oui, il n'y a pas de quoi trépigner, c'est pas pour ce que ça va coûter, c'est rien, tout ça. Mais en même temps, c'est dramatique, hein, parce qu'on est en train d'ancrer quelque chose, qui est, il n'y a plus besoin d'une politique culturelle au niveau national, mais il y a besoin quand même de trouver un peu des marchés pour faire des produits qui vont convenir aux différents publics qui feront la France. Et alors, je regardais là ce matin, ayant une nature curieuse, je regardais ce qu'il y avait au Conseil de l'Europe du côté de la culture, justement. C'est très intéressant. Alors déjà, ils ont une espèce de slogan, la culture, âme de la démocratie. Ça, c'est le mot âme est admirable. Et toute déclaration de foi, c'est autour de la diversité. C'est la diversité des cultures, c'est ça qui leur importe. C'est absolument pas la création, c'est certainement pas la nation, c'est la diversité des cultures qui va permettre autant de produits adaptés.
La suite est plus encore dans le numéro du Monde Diplomatique de novembre. C'était une émission avec Guy Van Thiel. Merci à Serge Halimi, Maurice Lemoine, Evelyne Piellet, François Ruffin et Lionel Richard. À signaler des livres, beaucoup de livres qui sortent ces temps-ci, qui sont passionnants, à commencer par l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours. Je sais que les auditeurs de la base J'y suis aiment les patrons, mais vous voulez toujours en savoir plus. Alors voilà, l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours. Le vrai visage du capitalisme français, c'est un livre dirigé par notre confrère Benoît Colomba et David Servenet. Et nous y reviendrons sans doute dans un prochain numéro de la base J'y suis. À signaler également le numéro 41 de la revue Agone, les intellectuels, la critique et le pouvoir. C'est un thème qui revient là aussi souvent, les relations des intellectuels et du pouvoir. D'ailleurs, je vous en parlerai bientôt dans un nouvel entretien avec l'intellectuel américain, Noam Chomsky. Et puis, un conseil de la base UJ suit ce mardi 10 à 19h30. L'Université populaire de l'Est parisien organise un débat avec Danielle Linhart, qui est une sociologue du travail, directrice de recherche au CNRS, et avec sa collègue Nelly Mauchamp. Débat pour faire le ménage dans nos têtes sur ce que nous croyons savoir sur le travail. C'est à la section du PCF du 20e arrondissement, 3 du 20e, c'est ça, 3 place des Grès, Paris 20e. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, ainsi que sur là-bas.org, où vous pouvez également réécouter, faire des commentaires. Philippe Duclos et Sandrine Laurent étaient à la technique aujourd'hui. Coyen Guyenne et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, c'est-à-dire le 01 56 40 37 37.
Aujourd'hui est pourtant juste un jour comme les autres. Vous avez juste un rendez-vous. Vous êtes juste un peu en retard. Vous roulez juste un peu trop vite. Vous êtes juste un peu mort. Sur la route, il n'y a pas de petite infraction. Respectons les règles. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du ministère du Développement Durable.
Aujourd'hui, grâce aux espaces Info Énergie, on peut obtenir des conseils gratuits et indépendants pour rendre son logement sobre en énergie et profiter des économies réalisées toute l'année. Ou alors, on peut faire de mauvais choix, prendre le risque de perdre de l'argent et de contribuer au dérèglement climatique. Alors, pourquoi attendre ? Faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe.
Pour trouver l'espace Info Énergie le plus près de chez vous, ADEME.fr ou 0810 060 050. Prix d'un appel local. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
Ce qui me fait plaisir, c'est de me sentir vraiment utile. C'est de m'engager et que ça marche. Contribuer à des projets efficaces, c'est ça qui me fait plaisir. Par exemple, quand les personnes âgées préfèrent vieillir chez elles, je trouve ça mieux de les y aider plutôt que de les placer d'office dans des maisons de retraite. Des actions comme celle-là, j'y crois. Et c'est pour ça que je donne à la Fondation de France.
Retrouvez toutes ces actions sur fondationdefrance.org. Fondation de France. Donnons, mais donnons bien.
À demain, 15h, pour la base, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
Il a épuisé tous les recours judiciaires et sera donc jugé en correctionnel. Le pourvoi en cassation déposé par Jérôme Kerviel a été rejeté. La date du procès de l'ancien trader de la Société Générale n'est pas encore connue, mais il pourrait comparaître dès l'automne 2010. Il sera renvoyé pour abus de confiance, faux et usage de faux, introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé. Jérôme Kerviel est accusé d'avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros à sa banque. Dieter Krombar, lui, pourrait bien comparaître devant une cour d'assises en France. La chambre de l'instruction, la cour d'appel de Paris, a en effet rejeté sa demande de remise en liberté. Le cardiologue allemand, ramené de force dans notre pays par des inconnus le mois dernier, a déjà été condamné pour son implication dans la mort d'une jeune fille en 95, mais par contumace. La justice allemande ne l'avait pas extradé parce que chez nos voisins, cette affaire a été classée sans suite. C'est l'un des crimes qui a bouleversé la France et les Français 13 ans après la mort des moines de Tibérine. La vérité éclatera-t-elle un jour ? Le Quai d'Orsay annonce avoir levé le secret défense sur certains documents. Des documents qui seront remis aux juges qui enquêtent depuis 2004 sur cette affaire. Le gouvernement dévoile son plan d'aide aux sans-abri, une remise à plat de la politique actuelle d'hébergement. Il s'agit par exemple de nommer pour chaque SDF un référent personnel chargé de le suivre au quotidien. 6 millions d'euros sont par ailleurs débloqués pour créer dans chaque département un service centralisé d'accueil et d'orientation. Des mesures d'aide aux SDF souffrant de troubles psychiatriques sont également prévues, ainsi que le renforcement de la lutte contre les marchands de sommeil. Les dominos s'arrachent au lendemain des festivités du 20e anniversaire anniversaire du mur de Berlin, les demandes affluent pour récupérer l'un de ces grands carrés de polystyrène qui reconstituait symboliquement hier le mur de Berlin. Entreprise, école, paroisse, chacun veut un bout de ce mur. C'est ce que raconte un porte-parole de l'organisation. Mais ils seront restitués en priorité à ceux qui les ont décorés, des écoliers notamment. Seuls deux dominos ont été mis de côté pour être exposés dans un musée de Beaune. C'est l'un des pays les plus pauvres de la planète, un pays pauvre riche en or. Un gisement de 40 tonnes d'or a été découvert en Éthiopie, valeur estimée 1,7 milliard de dollars. Je vous rappelle que la grève sur le RER B est reconduite demain, mercredi, sur le réseau RATP, mais aussi SNCF. Une ligne est empruntée chaque jour par quelques 800 000 voyageurs. Mais demain est un jour férié, ce sera donc peut-être plus facile. Le conflit est dans l'impasse, selon les syndicats. Ils dénoncent les conditions dans lesquelles s'organise ce que l'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire la suppression du changement de conducteur en gare du Nord. Avant, il fallait que le conducteur RATP soit remplacé par un conducteur SNCF. Quand le RER changeait de voie, c'est donc fini. Cela va raccourcir certains temps de trajet, mais les syndicats réclament des plannings moins serrés entre deux trains. Certains veulent aussi l'intégration d'une prime dans leur salaire. Les syndicats de la Poste ne désarment pas. Ils appellent à une nouvelle grève massive contre le changement de statut de l'entreprise le 24 novembre prochain.
Le fou du roi. Stéphane Bern.
Demain mercredi à 11h, Stéphane Bern recevra Henri Chapier et Marisa Berenson. Rendez-vous une demi-heure avant le début de l'émission dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi. Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter.
France Inter et le Théâtre National de Marseille La Criée présentent, du 17 au 29 novembre, La Nuit des Rois de William Shakespeare, mise en scène par Jean-Louis Benoît, avec notamment Nathalie Richard et Dominique Valadier. Déguisement, tu es une perfidie. Je ne suis pas ce que je suis. Retrouvez La Nuit des Rois dans les émissions de France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. En ce lendemain du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, je vous propose quelques enregistrements qu'on connaissait, par ouï-dire parfois, qui avaient filtré pour certains, et puis qu'on a découvert plus largement après cet événement. Par exemple, des enregistrements de Kurt Masur avec l'Orchestre Philharmonique de Dresden. Alors je vous propose le miracle. Évidemment, la chute du mur était en soi un miracle, mais cette 96e symphonie de Haydn, elle est dite à tort le miracle, parce que ça raconte l'histoire d'un lustre qui serait tombé dans une salle à Londres et il n'y a pas eu de blessés du tout. Sauf que c'est faux, c'est pas pour la 96e qui a eu ce miracle. C'est pour la 102e, on le sait maintenant, d'après un journal de l'époque. Peu importe, l'histoire est un peu branlante, un petit peu abracadabrantesque, mais la musique demeure et surtout, on se souvient que Kurt Masur a eu un impact au moment de la chute du mur, puisqu'il a tempéré certaines émeutes et peut-être évité des bains de sang tout à fait inutiles. Final, vivace. We'll be right back. finale vivace de la 96e symphonie dite à tort, je le rappelle, Le Miracle de Joseph Haydn, interprétée par l'orchestre